Et j'aimerais qu'on prenne 2 Corinthiens 11, verset 16, et on va lire jusqu'au chapitre 12, verset 11. Donc on continue cet épître aux Corinthiens. Petit à petit, on arrive vers la fin. Verset 16. « Je le répète, que personne ne me regarde comme un insensé, sinon recevez-moi comme un insensé, afin que moi aussi je me glorifie un peu. Ce que je dis, avec l'assurance d'avoir sujet de me glorifier, je ne le dis pas selon le Seigneur, mais comme par folie. Puisqu'il en est plusieurs qui se glorifient dans la chair, je me glorifierai aussi. Car vous supportez volontiers les insensés, vous qui êtes sages. Si quelqu'un vous asservit, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un est arrogant, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez. J'ai honte de le dire, nous avons montré de la faiblesse. Cependant, tout ce que peut oser quelqu'un, je parle en insensé, moi aussi je l'ose. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en termes extravagants. Je le suis plus encore, par les travaux, bien plus, par les coups, bien plus, par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort, 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1, 3 fois j'ai été battu de verge, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage, j'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible que je ne sois faible? Qui vient à tomber que je ne brûle? S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Dieu, qui est le Père du Seigneur Jésus et qui est béni éternellement, sait que je ne mens point. À Damas, le gouverneur du roi Arétas faisait garder la ville des Damaséniens pour se saisir de moi. Mais on me descendit par une fenêtre dans une corbeille le long de la muraille et j'échappai de leurs mains. Il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions, à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au troisième ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles merveilleuses qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. J'ai été un insensé. Vous m'y avez contraint. C'est par vous que je devais être recommandé, car je n'étais inférieur en rien aux apôtres par excellence, quoique je ne sois rien. » Alors le titre de mon message, c'est « Se glorifier ». Se glorifier, parce que c'est... On peut dire que c'est le sujet, hein, tout tourne autour de cela dans tout ce passage, question de se glorifier. L'apôtre Paul avait en face de lui des hommes qui se glorifiaient, qui se vantaient, qui se mettaient en avant. Ils critiquaient Paul et eux, ils se mettaient en avant, ils mettaient en avant leurs qualités, ils mettaient en avant leurs connaissances, leur origine, disant « mais nous, on vient de Jérusalem ». Et Paul n'en peut plus. Il n'en peut plus. Il est exaspéré de leur attitude et de l'injustice de cette situation. Parce que c'était profondément injuste. Voyant qu'ils étaient en train de réussir à tourner ses propres enfants, ses enfants en Christ, hein, ceux qu'il avait amenés au salut, ces faux docteurs ou ces mauvais enseignants étaient en train de tourner ses enfants contre lui. Alors il va craquer et il va commettre un acte de folie, dit-il. Regardez versets 17 et 18. Ce que je dis avec l'assurance d'avoir sujet de me glorifier, je ne le dis pas selon le Seigneur, mais comme par folie. Puisqu'il en est plusieurs qui se glorifient selon la chair, je me glorifierai aussi. Et on voit que l'apôtre Paul est comme vous et moi, hein, c'est un homme, voilà, fait de chair, hein, et même si c'était un vrai serviteur de Dieu qui était conduit par le Saint-Esprit, ici il semble qu'il se lâche et qu'il n'en peut plus de cette attitude de dénigrement à son égard. Faut-il se glorifier? Faut-il se mettre en avant? Non. Non, c'est une évidence que ce n'est pas ce que le Seigneur veut, ce n'est pas ce que l'Esprit veut, mais néanmoins, ici il va le permettre, il va vider son cœur. Et il ne cache pas qu'il a le sentiment de le faire pas selon le Seigneur, hein, ou dans le Seigneur, c'est ce qu'il dit, hein, mais c'est plutôt voilà, l'exaspération qui le pousse à se mettre en avant, bien conscient qu'on n'a jamais raison de se vanter de quoi que ce soit. Néanmoins, bien que Paul dise « je ne le dis pas selon le Seigneur », il ne faut pas croire et se dire « ah bon, alors ce passage, il n'est pas inspiré ». Non, la parole de Dieu, elle est inspirée. Et Dieu, eh bien, a permis que ce passage soit justement dans les Écritures. Certes, ça semble déraisonnable à vue humaine, mais néanmoins, Dieu a jugé que c'était bon pour nous. On avait besoin d'entendre ça. Peut-être parce que Paul n'aurait jamais dit tout ce qu'il a vécu, s'il n'avait pas vécu cette situation où il a déversé son cœur. Et nous, ça nous permet de comprendre des choses sur l'apôtre Paul aussi. Hein. Ça, c'est une première chose. Mais aussi, peut-être pour nous enseigner d'autres choses, et c'est ce qu'on va voir. C'est nécessaire pour nous, ces enfants, des siècles, enfants de Dieu, des siècles après l'apôtre. Et en regardant ce passage, on peut voir d'abord ce dont nous ne devrions pas nous glorifier. Parce qu'il le dit, il le dit. Paul le fait pour rentrer dans ce jeu des comparaisons que ses enseignants ont commencé à faire, hein, en disant « mais nous au moins, et puis lui, et lui, et lui ». Alors il dit « ah, vous voulez jouer à ce jeu-là, ok, on va rentrer dans ce jeu-là ». Et même si c'est une folie, verset 17, même si c'est insensé, verset 21, même si cela n'est pas bon, verset 12, l'apôtre va exposer ce dont il pourrait se glorifier, ou il pouvait se glorifier, il avait sujet, ou il aurait sujet eu de se glorifier. Alors, verset 22, il dit « Sont-ils hébreux ? Moi aussi. Sont-ils israélites ? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham ? Moi aussi. » Et une première chose dont on ne peut pas se glorifier, ou on ne devrait pas se glorifier, c'est son origine. Alors peut-être, pour nous aujourd'hui, ça ne nous parle pas forcément, mais pour eux, à l'époque, ça leur parlait. Principalement les Juifs, hein, ça leur parlait, parce que ben, pour eux, c'était voilà, une gloire et quelque chose. Ils étaient le peuple choisi, le peuple élu, le peuple de Dieu, et donc eh ben, ils s'élevaient beaucoup au-dessus des autres. Et donc c'était une certaine gloire que d'être de ce peuple-là. Mais finalement, qu'est-ce que cela ? Qu'est-ce que c'est ? Et quand on lit l'Épître aux Philippiens, on voit que l'apôtre Paul va dire « Mais tout ce qui était pour moi des gains, ben voilà, je l'ai regardé comme de la boue afin de gagner Christ. Ça n'a pas de valeur. Ça n'a pas de valeur. » Verset 23. « Sont-ils ministres de Christ ? Je parle en termes extravagants. Je le suis plus encore par... » Et là, il va faire un exposé de tout ce qu'il a subi dans son ministère, et j'imagine il en oublie même, qu'est-ce que c'est un ministre de Christ ? Qu'est-ce qu'un ministre de Christ ? Est-ce que c'est quelqu'un ou un statut qui s'acquiert en faisant des études ? Voilà, on fait 3, 4 ans, et puis ça y est, on est ministre de Christ ? Ou bien est-ce que c'est par un diplôme ? Puisque ces hommes qui étaient venus de Jérusalem dans l'église de Corinthe se disaient ministres de Christ. Mais alors qu'est-ce qu'un ministre de Christ ? Versets 23 à 25. Sont-ils ministres de Christ ? Je parle en termes extravagants. Je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. par les emprisonnements bien plus, souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Je m'arrête ici. Qu'est-ce que Paul met en avant ici? En fait, il met en avant ses persécutions pour Christ. Tout ce qu'il a vécu pour Christ. Et c'est une autre chose dont on ne devrait pas se glorifier, hein. Il le dit, hein, là il le fait, mais comme une preuve de son apostolat et parce qu'il est poussé à bout. Sinon, eh bien, il ne l'aurait pas dit. Est-ce que les hommes qui le critiquaient avaient subi le 10e de ce que lui avait subi en voulant marcher pour Jésus-Christ, hein, dans tous ses voyages? Et on peut dire qu'il n'y a pas de ministre de Christ qui ne passe pas un jour par du rejet, par de la haine, par du mépris. Alors tous ne vivent pas ce que Paul a vécu, hein, mais il faut se dire que l'apôtre Paul, c'était quand même le précurseur de l'annonce de l'évangile, hein. C'est le détonateur qui va envoyer l'évangile dans le monde entier. Et donc l'ennemi de Dieu était à l'œuvre, hein, pour essayer de l'arrêter sans cesse. Mais Dieu aussi le remplissait de son esprit, et du coup, eh bien, il avançait. Mais quand on est chrétien, eh bien, et qu'on s'avance pour Jésus-Christ, un jour ou l'autre, on prend des coups, hein, forcément. Il y a des retours, hein, on nous en veut, mais ce n'est pas un sujet de gloire personnelle dont on devrait se vanter. Verset 26. Fréquemment en voyage, j'étais en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Le mot péril peut être traduit par danger. Il était constamment en danger, et on peut dire que voilà, ces voyages, ce n'était pas une partie de plaisir, il n'était pas en train de faire du tourisme, hein, mais il était en train d'être rejeté, haï, justement, parce qu'il amenait l'évangile, et que ce soit sur les routes, sur les mers, dans les déserts, à chaque fois, eh bien, il était en danger. Verset 27, j'avance un peu. « J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid, à la nudité. » Et là, on voit des circonstances qu'un ministre du Seigneur accepte parce que, ben, il est appelé de Dieu, parce qu'il est envoyé par Dieu. Il y a du travail, il y a de la peine, il y a des veilles. On ne fait pas le nombre d'heures qu'on souhaite. Hein. Faut-il qu'il se vante? Non, il ne faut pas s'en vanter. Hein. On ne se glorifie pas parce qu'on a souffert ou parce qu'on souffre des choses pour Jésus-Christ ou des privations. C'est simplement, voilà, on l'accepte, ça, Dieu le permet, eh bien, on l'accepte. Et vous remarquerez que souvent, quand quelqu'un ne connaît pas Jésus-Christ, eh bien, il va mettre ses souffrances comme un sujet de gloire en avant. Ça arrive assez fréquemment, hein, comme si c'était méritoire, en fait, hein, avec tout ce que j'ai souffert, hein, quand même. Et Paul ne met jamais en avant ses nombreuses peines, ses souffrances, sauf dans cette lettre, parce qu'il est poussé à bout. Et encore, il le fait, mais il est bien embêté. Il sait, voilà, il essaye de le dire d'une manière aussi que ce soit bien compris. Ensuite, verset 28. « Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. » Je n'imagine pas ce que c'est que d'avoir 10, 20 églises. Imaginez l'apôtre Paul, il devait recevoir des lettres, on lui donnait sans cesse des lettres, ou quand il arrivait dans une ville, mais les chrétiens arrivaient et puis commençaient à exposer leurs différents problèmes et leurs fardeaux, et il était en train de porter de ville en ville des centaines de sujets de prière, hein. Et c'est touchant quand il dit que je prie pour vous dans toutes les épîtres. Eh bien, tout ça, c'était aussi un fardeau, c'était quelque chose. Hein. Il emploie le terme « assiégé ». Il est assiégé par tous les soucis que lui donnent les églises. Mais ce n'est pas pour ça qu'il doit se glorifier d'avoir plus de soucis que les autres. Qu'est-ce que dit le Seigneur? Le Seigneur dit « Quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites « Nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. » On sert Christ, voilà, on accepte, on avance. Et Paul a bien conscience qu'il ne faut pas se glorifier. Alors il dit, chapitre 12, verset 1, « Il faut se glorifier, ce n'est pas bon, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. » Non, ce n'est pas bon de se glorifier, ce n'est pas bon de se mettre en avant ou de mettre en avant ses expériences. Mais Paul est lancé là dans sa défense. Alors il va parler un peu plus et il va parler de ses visions, de ses révélations qu'il a reçues de Jésus. Mais comment il le fait ? Il a tellement conscience que ce n'est pas bon, que ce n'est pas une bonne chose que de se mettre en avant et s'élever au-dessus de ses frères et sœurs, que il va parler d'un autre homme. Regardez, on va lire les versets 2 à 4. Chapitre 12. « Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au troisième ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles merveilleuses qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. » Et Paul dit, voilà, je connais un homme en Christ, mais quand vous lisez la suite, vous voyez clairement qu'en fait, il est en train de parler de lui-même. Mais il n'arrive pas à dire, vous savez quoi ? J'ai été ravi au troisième ciel. Je suis rentré dans le paradis. J'ai entendu des paroles merveilleuses. Il n'arrive pas à le dire. Il est comme empêché, il ne peut pas le dire. Et il y a un danger, vous savez, à s'élever par rapport aux autres, à dire, mais moi, j'ai connu ça, ou moi, j'ai vécu ça, j'ai eu des visions, j'ai eu des révélations, et j'ai vu ceci, et j'ai vu cela. Non, Paul n'y arrive pas. C'est impossible pour lui de s'élever au-dessus de ses frères. Et si c'est ici une dernière chose dont le Seigneur ne veut pas qu'on se glorifie, c'est ses révélations. Voilà, peut-être ce que Dieu a fait, ses expériences que Dieu a pu faire dans nos vies, même en vision. Non, Dieu ne veut pas qu'on s'élève au-dessus des autres, comme si nous serions plus que les autres, ou nous aurions reçu plus de privilèges que les autres, parce que le danger de l'orgueil est grand. Le danger est grand de s'élever par orgueil. Et même un Paul, si humble de cœur, si dépendant, si consacré, même lui, il est en danger de s'élever. Il peut tomber à cause de cette expérience qu'il a vécue 14 ans auparavant. Il est en danger de penser que finalement, peut-être il est quelque chose de plus que les autres. Il a eu un privilège, une grâce de plus. C'est une folie. C'est insensé. Ce n'est pas bon de se glorifier de ses origines, de ses souffrances, de ses persécutions, des dangers endurés pour Christ, de son travail, de ses privations, de ses soucis, ou même de ses révélations célestes. Il ne faut pas le faire. Bien sûr, on va partager ses fardeaux. Dieu veut qu'on partage nos fardeaux. Si on souffre, c'est pas « ah ben non, mais je dois rien partager », non. Non, quand on souffre, Dieu veut qu'on porte les fardeaux les uns des autres. Donc quand on vit des choses difficiles, on les partage, pour qu'on puisse être soutenu, encouragé, accompagné dans ce qu'on vit, c'est important. Mais ce n'est pas bon de s'en glorifier et de s'élever à cause de ce qu'on peut vivre ou on a vécu. Mais alors, peut-on se glorifier de quelque chose ? On va voir maintenant de quoi nous pouvons nous glorifier. L'homme, quand vous regardez le monde, vous regardez les informations, vous regardez des émissions, vous voyez les hommes qui se glorifient de leur talent, se glorifient de leurs dons, de leurs capacités, de leur richesse, de leur savoir, de leur connaissance sur des plateaux. Mais selon la parole de Dieu révélée au prophète Jérémie, nous pouvons nous glorifier, mais certainement pas des dons et de nos richesses ou de toutes ces choses. Dieu dit que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. » Ah oui, on peut se glorifier, mais on peut se glorifier d'avoir de l'intelligence et de connaître le Seigneur, de connaître Dieu. Il ne faut pas avoir honte de dire « oui, je le connais ». Oui, c'est possible d'avoir une relation avec le Dieu vivant. C'est vrai, j'ai cette relation, je le connais. C'est une grâce. Je l'ai reçue par grâce parce que je me suis approché de lui, j'ai cru. Ça, on peut le dire, on peut l'avancer, le mettre en avant. Mais Paul dit aussi, et j'aimerais reprendre le verset 30, chapitre 11. Il dit, chapitre 11, verset 30, « S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. » Et c'est quelque chose de complètement paradoxal. L'homme se glorifie de sa force, se glorifie de ses dons, de ses succès. Et lui, il dit, « Moi, je vais me glorifier de ma faiblesse et de mes faiblesses. » Il a dit aux Corinthiens qu'il connaissait un homme qui a été ravi au troisième ciel. Le premier ciel, c'est celui que vous voyez, c'est l'atmosphère. Le deuxième ciel, c'est celui que vous voyez avec un télescope. C'est les galaxies, l'univers, la Voie lactée. Et puis le troisième ciel, c'est celui que vous ne pouvez pas voir avec vos yeux. C'est l'au-delà, en fait. Hein, c'est le monde spirituel. On ne le voit pas avec nos yeux. Et il dit, cet homme a donc été ravi dans l'au-delà. Et il a entendu des paroles merveilleuses. C'est même pas permis à un homme de les exprimer. Ça veut dire, cherchez pas, mais qu'est-ce qu'il a dit ou qu'est-ce qu'il a entendu. Non, on ne peut même pas l'exprimer, c'est indicible. Voilà, on ne peut pas. Il ne peut pas le dire. Il dit rien. Paul s'arrête là. Il n'en dit pas plus sur ses révélations ou sur ce qu'il a vu. Versets 5 et 6. Il dit, « Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. » Et dans ce verset 6, on voit que il commence à révéler, en fait. Hein, son discours change. Il parlait d'un homme, et puis maintenant, on le voit qui est vraiment impliqué. Il parle de lui-même. Et puis ensuite, au verset 7, il ne le cache plus. Il le dit, hein. C'est bien lui qui a été ravi au troisième ciel. Versets 7 à 9. « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Et Paul est l'une des rares personnes qui a pu entrer dans les mystères de Dieu, qui a pu entrer dans le ciel, voir le paradis. Quand on lit la Bible, Ésaïe a une vision de trône, Ézéchiel a une vision, l'apôtre Jean, bien sûr, hein, transporté au ciel, hein, et il voit toutes sortes de choses célestes. Et puis l'apôtre Paul, ici, nous le révèle, sans dire exactement ce qu'il a vu. Mais avec quelle pudeur, avec quelle humilité, il nous fait part de ses révélations. Et on apprend que Dieu l'a volontairement humilié avec une écharde dans la chair. Paul dit que c'était un ange de Satan pour le souffleter et l'empêcher de l'enorgueillir, de s'enorgueillir. Alors qu'est-ce qu'on comprend ? On comprend qu'il avait apparemment une maladie, hein, quelque chose qui restait, qui demeurait, et qui l'affaiblissait, qui l'humiliait, et qui l'empêchait de faire le beau, hein, de se glorifier. Et quand vous recoupez les autres écrits, vous lisez toutes les épîtres, vous commencez à avoir des indices. Vous dites, ah, en fait, c'est probablement ça. Regardez Galates. Galates 4, et on va lire les versets 13 à 15. Il dit aux frères de Galatie, il leur dit, « Vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai annoncé pour la première fois l'Évangile. Et mis à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris, ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Où donc est l'expression de votre bonheur ? Car je vous atteste que, s'il avait été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. » Là, quand vous lisez ce passage, vous voyez que l'infirmité de la chair, c'était clairement un problème aux yeux. il a une maladie ici aux yeux, peut-être une infection purulente, quelque chose comme ça, puisque ça inspire du dégoût. Hein, il le dit, voilà, vous ne m'avez pas manifesté de dégoût. Pourtant, ben, c'était probablement quelque chose qui n'était pas très beau à voir. Et c'est vrai que infection à l'œil, hein, quand, ça, voilà, c'est pas très agréable. Regardez, si vous prenez Galates 6, verset 11, un petit peu plus loin, il dit « Voyez avec quelles grandes lettres je vous ai écrit de ma propre main. » Et souvent, il avait une personne qui prenait des notes et la lettre, il lui dictait la lettre. Mais ici, il a écrit de sa propre main, il écrit avec des grandes lettres. Pourquoi ? Parce que probablement, eh bien, il ne voyait pas bien. Il était handicapé, vraiment, hein, il ne voyait pas bien. Il dit, pour reprendre 2 Corinthiens, « Trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Paul était l'un de ceux qui guérissaient, qui faisait de grands miracles pour le Seigneur. Et là, il ne peut rien faire pour lui-même. Dieu ne le délivre pas. Dieu ne le guérit pas. Et Paul reste avec cette écharde dans la chair, avec cette maladie qui l'afflige, qui l'accable, hein, qui l'affaiblit. Et Dieu permet que parfois il y ait une écharde qui nous affaiblisse. Quelque chose qui nous fait mal, qui nous dérange, qui nous contrarie. Alors, quelle est votre écharde ? Quelle est notre écharde ? Ça peut être une maladie, ça peut être un handicap, hein, une infirmité de la chair qui nous affaiblit. Combien de chrétiens ont un problème physique dans le corps, une maladie, quelque chose ? Ils sont certainement beaucoup plus nombreux que ceux qui sont en parfaite santé, guéris et toujours en bonne santé. Hein. Moi, quand on regarde le corps de Christ, eh bien, il y a une réalité ici, c'est que Dieu permet certaines maladies et certaines infirmités. Ça ne veut pas dire, bien sûr, que Dieu ne puisse pas guérir. Dieu est le Dieu des délivrances. Hein, et on l'invoque, et on le supplie, et on lui demande. Mais aussi, hein, Paul a demandé. Et puis, voilà, il a eu cette conviction, il s'est arrêté de demander. Parce qu'il savait que non, c'était permis par Dieu. Il le voulait. De même, Timothée, Paul n'a pas pu faire grand-chose pour lui. Il lui a dit, prends un peu de vin pour soulager tes problèmes d'estomac. Est-ce que nous, on a une écharde physique, quelque chose qui nous affaiblit, qui nous garde petits ? Parfois, notre écharde, c'est une personne. Personne qui nous est proche, que l'on voit, que l'on côtoie, qu'on peut côtoyer pardon, tous les jours, ou quelqu'un qui vit avec moi ou avec nous. Par exemple, un conjoint. Hein, parfois, il y a des relations conflictuelles, il y a des choses difficiles. Voilà, ça peut être une écharde dans la chair. Ça peut faire souffrir, être une source d'affaiblissement. Mais ce n'est pas pour nous faire du mal que Dieu permet une écharde dans la chair. Bien sûr, on veut l'ôter. Hier, je voyais un rosier à la maison et il y avait des pucerons. Donc, j'ai voulu enlever les pucerons comme ça. Et je me suis rentré une épine dans le doigt qui s'est cassée. Vous avez envie de l'enlever. Hein, vous n'avez pas envie de passer le reste de la journée avec l'épine dans le doigt. Hein, ça dérange. Hein, c'est, voilà, vous le sentez, ça, c'est douloureux, ça fait mal. On veut l'ôter le plus vite possible. Mais spirituellement, Dieu permet que parfois l'écharde, elle reste. Elle est là. Et le but, ben, c'est nous rapprocher de lui. Pour la supporter, on n'a pas d'autre issue que de dire « Seigneur, j'ai besoin de toi. Aide-moi. Soutiens-moi. » Peut-être on a une écharde parce que naturellement, eh bien, on a du mal à aller vers le Seigneur. Alors l'écharde fait que, ben, oui, on y va. On y va. Alors Dieu le permet pour qu'on aille puiser auprès de lui la force de tenir bon, de continuer, de le supporter. Vous savez, parfois vous voyez quelqu'un avec une grande douceur, plein d'amour, plein de bonté, Ça vous rappelle Christ. Et puis pas loin, parfois, eh bien, il y a une personne, pas loin de lui, d'elle, il y a une personne avec un caractère difficile. Et c'est ça justement qui a servi à bonifier, à sanctifier, à transformer le caractère. Parce que, vous savez, il n'y a que deux solutions. Hein. Quand on n'est pas très loin de quelqu'un qui est difficile, soit on se bonifie à genoux devant le Seigneur, soit bam, on explose hein, et ça empire. Donc quand on suit le Seigneur et on vient à genoux, eh bien, c'est le caractère de Christ qui se manifeste dans notre cœur. Dieu peut permettre que les chartes soient une personne. Mais les chartes, c'est parfois aussi des circonstances, des épreuves, des choses qui sont difficiles autour de nous et qui nous affaiblissent. Parfois, il n'y a que nous qui savons ce que nous vivons, parce que ben, on ne le partage pas forcément. Mais Dieu sait qu'on en a besoin. Dieu permet aussi les circonstances parce qu'il sait qu'il est en train de faire quelque chose, une œuvre dans notre cœur. Ça ne veut pas dire que parce que nous souffrons, eh bien, on va souffrir toujours. Peut-être qu'il y aura une délivrance. Mais en attendant, eh bien, Dieu est en train de faire une œuvre. Il est en train de transformer notre cœur. Dieu est aussi le Dieu des délivrances. Mais il voit que c'est nécessaire pour notre âme, en tout cas maintenant. Et Dieu aimait Paul. Et il était nécessaire qu'il soit gardé de son orgueil. Son problème, c'était là. Il le dit clairement, pour ne pas s'enorgueillir, pas tomber dans l'orgueil. Et s'il n'avait pas eu cette chose-là, cette écharpe pour l'humilier, alors eh bien probablement il se serait élevé et Dieu n'aurait pas pu faire tout ce qu'il voulait faire avec lui. Alors c'est vrai, il a permis cette vision du ciel, Paul est transporté au ciel, et pourquoi ? Parce que, ben, on voit, hein, dans tous ses écrits, il va nous communiquer mais un tel zèle, un tel enthousiasme, une telle espérance, quoi. Il vit ces choses. Et Dieu a permis qu'il écrive et qu'il pose tout ce fondement du Nouveau Testament. Mais la vision et les chartes, les deux ensemble. Et Paul l'a accepté. Il a prié trois fois. Il a probablement supplié, Seigneur, interviens, délivre-moi. Et il a vite compris que, en fait, la délivrance, elle était ailleurs. C'était pas dans le fait d'enlever les chartes, mais c'était plutôt dans le fait d'accepter et de venir à ses pieds et dépendre de lui. Et il l'a accepté. Il dit, « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Et dans le fait qu'il était petit, dans le fait qu'il avait cette écharde, alors eh bien la puissance de Jésus-Christ était sur lui, elle reposait sur lui. Et Dieu ne peut pas se servir de quelqu'un qui pense qu'il est quelque chose, de quelqu'un qui pense qu'il est arrivé ou qu'il est capable, qu'il est fort, qu'il est puissant ou plus élevé que ses frères. Et cette infirmité, eh bien, ça le gardait petit, humble, dépendant. Alors quelle est notre écharde ? Quelle est notre écharde qui peut-être nous garde, nous rapproche de lui ? Quand on comprend que c'est un bienfait pour nous, alors on peut se glorifier de cette faiblesse. Verset 10. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Il y a le psalmiste du psaume 119, c'est toujours un verset qui je trouvais très parlant. Peut-être c'est David qui a écrit ce psaume 119, probablement. Il dit, il m'est bon d'être humilié afin de garder tes commandements, garder tes ordonnances. Il m'est bon d'être humilié. Il faut pouvoir le dire ça. Hein? Seigneur, c'est dur, mais il m'est bon d'être humilié. Pour garder ta parole, garder tes statuts. Apprendre que ce qui nous humilie n'est pas destiné à nous faire du mal, mais au contraire, ça nous aide à grandir avec Jésus-Christ. On se rapproche de lui, on est plus proche de lui. Quand on perçoit cela, alors l'humiliation, les faiblesses, les calamités, Les persécutions, les outrages, les détresses ou une quelconque écharde ne sont plus perçues de la même manière. On se dit, mais en fait, c'est un bienfait. Heureusement que j'ai ça. Et si j'avais pas ça, eh bien, qu'est-ce que je serais ? Qu'est-ce que je serais si Dieu ne permettait pas cette chose qui m'affaiblit ? Il faut se le dire, hein. Peut-être qu'on serait une personne complètement différente. Je termine avec une dernière question. Est-ce que sa grâce nous suffit ? Verset 9. Il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Une autre question, c'est, est-ce que la grâce de Dieu est toute suffisante ? Est-ce qu'elle est suffisante ? Comme je l'ai dit, une écharde, c'est nécessairement quelque chose qu'on a envie d'ôter. On n'a pas envie de garder une écharde. Ça nous fait mal. Mais le Seigneur nous dit, « Ma grâce te suffit. » Et c'est que dans cette grâce qu'on peut avoir la force de supporter l'écharde, la force de la traverser, la force de nous relever, la force de continuer à marcher avec le Seigneur malgré l'écharde. Ailleurs, Paul dit que la grâce envers lui n'a pas été vaine. Il n'a pas laissé tomber la grâce. Non, il l'a saisie à bras le corps en disant « J'ai besoin, Seigneur, que ta grâce soit avec moi. » Et elle nous est accordée, elle nous est offerte. Il faut la saisir et dire « Seigneur, je veux vivre et dépendre de toi, que ta grâce coule dans ma vie, qu'elle me porte, qu'elle me garde, qu'elle me soutienne et qu'elle allège finalement la douleur de l'écharde. » Et l'enjeu, ben c'est finalement être ressemblé à Jésus-Christ, être transformé à l'image de Jésus-Christ. Paul dit que la puissance de Christ repose sur nous, que Christ vive en nous. Paul était ce qu'il était à cause de cette écharde. Et sa grâce est suffisante. Alors, eh bien, voilà, il faut qu'on demande. Seigneur, viens-moi en aide. Donne-moi ta grâce afin que je surmonte et que j'arrive à voilà, vivre avec le cœur au ciel, avec de l'espérance. Paul dit, je me plais dans les faiblesses. C'est dur à dire, hein ? Je me plais dans les faiblesses. Ça veut dire, ben, j'ai accepté l'écharde. Je vis avec et je vois combien cela m'est bénéfique. Si Paul l'a surmonté, alors nous pouvons aussi le surmonter. Et je termine simplement avec un dernier verset que vous connaissez bien. Aucune tentation ou aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez éprouvés ou tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation ou l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter.